Est-ce que vous m'entendez? Oui? Fern, il va me... Amen. Yeah, I think so. Me. Amen. Nous allons prier le Seigneur avant de regarder un passage, des passages bibliques. Seigneur, on te bénit pour ta présence. Seigneur, nous te bénissons pour les signes de ton amour dans notre vie. Les signes qui se manifestent partout, Seigneur, que tu es proche de nous, que tu nous suis, que tu ouvres le chemin devant nous. Nous te bénissons également, Seigneur, pour les signes de ton retour aussi, Seigneur, qu'on voit partout. Et Seigneur, nous te bénissons de ce que nous avons cette promesse que tu prépares une place pour nous et que tu vas revenir nous chercher. Je te bénis, Seigneur, ici maintenant pour l'Esprit Saint qui nous touche, qui ouvre notre cœur, notre entendement. Nous confessons notre besoin de toi. Nous confessons que nous avons grandement besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de cette parole de Dieu qui nous touche profondément, qui pénètre dans le profond de notre cœur. Seigneur, bénis chaque personne ici et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et son peuple dit un grand
Amen.
Amen. Amen. Eh bien, j'ai deux titres pour ce message ce matin. Je vous donne le premier, puis vous allez voir que le deuxième ressemble beaucoup au premier. D'accord? Le titre est ceci, « La joie dans la souffrance ». Et le deuxième titre est ceci, « La joie dans la souffrance ». Voilà, les deux titres. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous avez le choix. Ce matin, nous voulons parler un peu de la souffrance. Ce n'est pas un cours « Comment souffrir ». Mais c'est un cours qui nous dévoile comment Dieu en pleine crise, pleine difficulté, il y a de la joie de l'Esprit Saint. On cherche la joie de l'Esprit Saint. Dieu nous promet la joie de l'Esprit Saint. Il dit, non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Et si on veut, évidemment, souligner, regarder la souffrance, évidemment, on pense à un livre, et c'est le livre de Job. Il y a bien d'autres passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la souffrance, mais Job, le livre de Job et la souffrance, voilà, on le trouve dans le livre de Job. Et comme nul autre livre, ça traite la question de la souffrance. Et dans ce livre de Job, au premier plan, voilà le problème ou la question qui se lève tout le temps. Tout au long de ce livre, les trois réconforteurs, si ça se dit en français, de Job, les trois hommes à côté de lui, ils questionnent avec beaucoup de raisonnement, de sagesse. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais ça ne reste que c'est la sagesse humaine. Il questionne Job et il condamne Job. On va voir ça dans quelques instants. Mais la question est ceci. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les chrétiens peuvent-ils souffrir? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais on va voir selon les Écritures ce matin, puis on demande l'Esprit de nous aider à comprendre. Parce qu'on voit dans le Nouveau Testament aussi, on voit la question de la souffrance. Mais la souffrance peut être un bon enseignant. La souffrance dans notre vie soumise à Jésus-Christ, Jésus-Christ dans notre vie en tant que le Seigneur de notre vie, ça peut porter et ça va porter des bons fruits. Et la souffrance peut être même une bénédiction dans la vie. Et la souffrance peut même produire en masse la joie de l'Esprit-Saint. La souffrance, même avec la main de Dieu, nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Ça peut nous amener même à glorifier Dieu et que Dieu soit glorifié. vous souvenez la vie de l'apôtre Paul? Pardon. L'apôtre Paul a vécu beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Et je suis sûr qu'il aurait pu, comme nous, et la question qui arrive, c'est que quand nous sommes dans la souffrance, nous en tant que chrétiens, souvent on va se poser la question, mais Seigneur, pourquoi la souffrance? Pourquoi je vis ceci? Et cela nous revient, et puis même l'ennemi embarque là-dedans et dit, ben vois-tu, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a délaissé, tu n'es pas si fin que cela, le Seigneur s'est éloigné de toi, ou peut-être que tu as fait quelque chose dans ta vie et tu souffres à cause de ces choses-là. Ce matin, vous pouvez finalement, d'une façon permanente, fermer la porte sur ces mensonges. Dieu est avec nous. Et dans nos problèmes, tout le monde a des problèmes, même des chrétiens, on vit des choses, mais là-dedans, c'est là où Dieu se manifeste à nous et il tourne ce qui est mal, il tourne ça en bénédiction. Ce qui devait nous faire mal, nous bénit. Ce qui devait cacher le Seigneur fait en sorte que le Christ resplendit et les autres voient que Dieu est vivant. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que la vie nous réserve, eh bien, c'est là-dedans qu'on devient fort en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 23 à 30, on n'a pas le temps, mais il donne une liste de toutes les choses qu'il a vécues, battues, naufragées, lapidées, toutes sortes de choses. Enfin, on n'a pas le temps de lire ça, mais l'apôtre Paul, choisi par Dieu, choisi miraculeusement par Dieu de glorifier Dieu, mais il a vécu toutes ces choses. Et dans Colossiens, le premier chapitre, le verset 24, il dit, « Je me réjouis, l'apôtre Paul, je me réjouis dans mes souffrances et ce qui manque aux souffrances de Christ, je la remplis pour son corps. » Maintenant, il dit, « Je me réjouis des souffrances. » Et il dit, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, non pas, n'est-ce pas, son sacrifice pour le péché, mais pour l'Église. Pour l'Église, je souffre, et dis, j'ajoute à cela. » Paul, n'est-ce pas, il dit, « Je veux connaître le Seigneur, la puissance de sa résurrection, et dans la communion de ses souffrances. » Paul s'identifie tellement avec le Seigneur. Et nous aussi, dans nos souffrances, nous pouvons vraiment les donner au Seigneur et vivre des choses incroyables à cause de Jésus-Christ. J'ai un autre passage dans 1 Corinthiens, je vais lire ceci. C'est l'apôtre Paul. Pardon. C'est 2 Corinthiens 4. Ça donne un peu sa façon de voir les choses, sa façon de voir. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Fait qu'à travers cette souffrance, à travers de ce qui vivait, ça produisait la vie. Mais maintenant, nous allons revenir à notre texte, Job, pardon, premier chapitre, et nous voulons regarder la vie de Job un petit peu. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal, et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, enfin tout cela. Maintenant, on va au verset 6 dans le même chapitre. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. » Ça, c'est les anges. « Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement ne porte pas main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Fait qu'on voit dans ce... On voit dans ce chapitre Job, on voit comment Dieu était vraiment fier de lui. J'ai une bonne nouvelle, Dieu est fier de vous ce matin. Dieu s'identifie à nous. Il a dit, « As-tu vu mon serviteur Job et comment il est? » Et c'était un peu trop pour Satan. Oui, mais est-ce que c'est d'une façon désintéressée qu'il te sert? N'est-ce pas? Et oui, il te sert Dieu, oui, mais regarde, tu le bénis, tu le protèges, et tu le fais prospérer, tout cela. Ce n'est pas pour rien. Donc, le concours est parti. Le test est donné. Le combat est fait, si vous voulez, entre Dieu et Satan. Et finalement, l'ennemi lui dit, oui, mais si tu lui enlèves toutes ses bénédictions, il va te maudire en face. Et puis, on peut se poser la question sans être dramatique, sensationnel, mais qu'on a mal chanté ce matin, « Quand je n'ai rien, quand je baisse les bras, quand je n'ai rien, qu'en est-il? » Et chacun de nous, nous vivons des choses dans notre vie où nous ressentions une perte, nous n'avons rien à apporter, et on est des fois vide de nous-mêmes, de sentiments, et on a l'impression que Dieu n'est plus là. N'est-ce pas? On vit tout cela. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Bien, c'est en ce moment, là, on, avec l'aide de Dieu, on relève les mains et on fait un vœu devant le Seigneur. On dit, Seigneur, je ne ressens ceci, il me semble que ça m'a été enlevé, mais je te loue, je te bénis. Et même la femme de Job, une bonne femme, mais de toute façon, cette femme a dit... Parce qu'on voit qu'il était beaucoup affligé, sa famille, puis jusqu'à sa santé, finalement, il a été atteint dans sa santé. Et la femme a dit, « Mais Job, tu restes intègre. » Il dit, « Maudit Dieu et meurs. » Et il dit, « Tu parles comme un insensé. » On a reçu du bon de Dieu et est-ce qu'on ne reçoit rien de mal? Donc, Job, dans tout cela, ce qui était souligné, c'est la patience, la persévérance de Job. Job est un exemple pour chacun de nous. Vous avez tous vécu des expériences. Vous avez tous vécu des choses où vraiment on décide, Seigneur, je suis là, on dit en anglais, for the long haul. Je suis ici, Seigneur, pour te bénir jusqu'à la fin de mes jours. Et ça fait bien des années que j'avais l'impression de ce que je vivais dans le temps, je ne sais même pas ce que je vivais, mais j'avais l'impression en lisant Job, j'ai dit, Seigneur, je me sens comme Job. Je suis entre le crosshairs, le mire de Dieu et de Satan. Et Dieu a permis cela pour que Job développe ses muscles qui deviennent un exemple. Dieu a manifesté sa gloire, son aide dans la vie. Il était souverain de toute façon, de toute chose. Et on a vu Job et on a vu la fin. On a vu la fin de la vie de Job. Il y a un passage dans Jacques que j'aimerais vous lire. Jacques 5, je crois que c'est dans le 5, oui. Jacques 5 et 10 dit ceci, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous vous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Dieu est plein de compassion. Dieu est plein de bonté envers nous, ses enfants. Puis je veux, le Seigneur veut que vous soyez assurés de cela ce matin. Je pense qu'un des plus gros batailles que Job livrait avec ses amis, parce qu'il avait trois amis qu'il conseillait, qui mal conseillaient, mais des fois des bonnes choses, mais souvent les choses qui le condamnaient. Et eux, ils étaient certains et sûrs que Job souffrait parce qu'il avait du péché dans sa vie. Savez-vous, il y a même des chrétiens qui pensent ça des fois. C'est que, ben, c'est parce que je souffre, parce que je dois avoir du mal dans mon péché, ou peut-être c'est dans le passé, bien qu'ils sont pardonnés, bien qu'ils sont à Jésus-Christ maintenant, l'ennemi vient et dit, oui, mais c'est qu'à cause de cela. C'est pas à cause de cela. C'est que le Seigneur utilise toutes ces choses, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus a pris la souffrance, a pris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc, ça faisait partie de sa vie. Et ça fait partie de notre vie. Le soldat sait comment résister le combat. Le soldat s'entraîne pour la bataille. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur veut mettre une façon de penser. Non pas une façon qu'on a tout à l'aise, on a tout le monde me devait quelque chose. On est dans notre esprit, l'esprit du guerrier. On souffre les choses. On est prêt à souffrir pour le Seigneur. Hein? L'Église primitive a donné leur vie. Il y avait des martyrs, des centaines, des milliers de martyrs à cause de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut bâtir dans notre cœur, dans notre vie, une attitude de soldat. Une attitude de quelqu'un qui avance dans le Seigneur. Donc, une des choses qui était le plus difficile pour Job, c'était ceci, c'est qu'il l'accusait. Pour eux, ils ne pouvaient pas penser en dehors de la boîte. S'il y avait du mal, s'il y avait de la souffrance, c'était à cause du péché. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Dieu était impliqué dans un concours, dans quelque chose dans la vie de Job. C'était pour que Job glorifie le Seigneur et il a glorifié hautement le Seigneur. Même dans Job, il a eu des moments vraiment brillants, des moments où il disait des choses. Il disait beaucoup de choses. Il a même maudit le jour de sa naissance. Il a dit d'autres choses qui n'étaient pas beaux. Il était dans la souffrance, quoi. Pardon. Mais dans Job 19, 25, il dit ceci, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Dans Job 23, il dit, « Je sortirai pur comme de l'or. » Fait que dans sa misère, il a confessé la bonté de Dieu. Est-ce que nous le faisons? Quand on confesse des fois le mal, on confesse la souffrance, on confesse tout cela, mais en pleinement là-dedans, est-ce qu'on confesse que l'Éternel, sa bonté se renouvelle tous les matins? Je pense que Pasteur Fern a dit ça ce matin. Est-ce qu'on prend les Écritures? Est-ce qu'on prend ce que le Seigneur a fait dans le passé, dans notre vie? Est-ce qu'on ramène cela? Et est-ce qu'on repasse ça dans notre cœur? Et on dit, Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu es avec moi jusqu'à la fin. Seigneur, je ne lâcherai pas. Seigneur, tu ne me lâcherais pas. Tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Ta parole est vérité. Est-ce qu'on confesse les choses? On devrait le faire. C'est une arme, n'est-ce pas? Et que le Seigneur puisse nous aider à confesser. Il y a aussi un passage dans Jacques que nous voulons regarder. J'ai quelques passages ici qu'il faut absolument lire. Jacques, chapitre 5. Et ce sont des bons passages de souligner et de regarder. 5, verset 10. Pardon. Jacques 5, verset 10. Il dit, « Prenez, mes frères, mes sœurs, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Quelqu'un qui verrait l'histoire, qui verrait Job, comme les trois gens qui étaient à côté à lui pour le consoler, ils ont vu les choses, ils ont dit, il y a un défaut en Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton Dieu. Mais ils se sont trompés et à la fin du livre, savez-vous, Job devait intercéder et prier parce que Dieu était fâché contre tous les conseils. Les conseils dont nous avons besoin, ce sont les conseils de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ce n'est pas le conseil du voisin, nécessairement. Ce n'est pas, même pas nos conseils de notre chair. Nous avons besoin de nous appuyer sur la bonne, éternelle parole de Dieu. Que Dieu dit vrai, que tout homme soit connu pour menteur. Nous ne devons pas nous fier sur notre raisonnement parce que des fois, on va se perdre dans notre raisonnement. Pourquoi je vis ça? Seigneur, je ne veux pas, je suis un enfant de Dieu, je vis ça. Pourquoi? Mais Seigneur nous a choisi de nous glorifier, de qu'elle soit glorifiée en premier. Amen. Et on se tient ferme. Dieu ne change pas. Dieu est bon. Dieu est rempli de miséricorde. Dieu a un plan pour notre vie. Et sommes-nous prêts à avancer? Sommes-nous prêts à dire, coûte que coûte, j'avance, Seigneur, je boite, j'ai de la difficulté, j'ai beaucoup de sentiments, j'ai beaucoup d'émotions, Seigneur, j'ai beaucoup de difficultés, mais Seigneur, je me lève et je marche avec toi. Je marche vers toi. Et ce qui est vrai, je le mets en pratique. Je le mets en pratique. Et le Seigneur est glorifié dans une telle attitude. Je vais aller un peu plus loin. Je vais enlever ça, par exemple. Il y a quelques passages que j'aimerais lire maintenant, toujours dans le Nouveau Testament. C'est Jacques, le premier chapitre. Je suis tellement content que le Seigneur nous a donné sa parole. Quoi d'autre peut nous tenir? Si ce n'est pas la parole du Seigneur. Si vous vous confiez juste au pasteur, et votre pasteur est bien, puis les pasteurs sont bien, si on se confie juste à l'homme, ce n'est pas suffisamment. Mais si on se maintient sur la parole du Seigneur, eh bien, ça nous touche profondément. Je vous invite de lire la lecture de la Bible. Et je vous invite aussi, le Seigneur nous invite à méditer. Ce que nous lisons, on médite comme une vieille vache. On mastique. On envoie ça à notre estomac, puis après ça, là, on ramène le estomac. Enfin, je ne veux pas être grosse ici, là, mais... Est-ce que Dieu dit, oui, mais Seigneur, il m'a dit ça il y a 2 mois, il y a 1 an, il m'a béni avec une verset biblique. Et puis là, on revient à ce passage et on mange encore et on regarde cela et on retire le bénéfice, les vitamines, la vérité. Enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous tient debout. C'est cette parole qui est vivante. Ça opère en nous, et puis des fois, on n'est même pas conscient, mais on lit cela, puis à un moment donné, l'Esprit Saint souffle, c'est déjà soufflé. Mais là, dans notre esprit, ça touche, et là, ça rectifie, ça change mon attitude. Je vois les choses différemment. Et ce que je vis là présentement qui me fait mal, qui me met à terre, je vois ça différemment. Et je change de culture, je change de pensée et je glorifie le Seigneur. Et le Seigneur est glorifié. Et je vis bien. Peut-être rien n'a changé, mais moi j'ai changé. Le Seigneur veut nous changer. Il veut nous changer à l'image de Jésus-Christ. J'ai lu cette semaine quelque part, il dit, le Seigneur, on voit la main de Dieu partout, l'imprimure, si ça se dit en français, partout de ce qu'il a fait. Mais la seule place où il a créé, il a mis l'image de Dieu, de lui-même, c'est nous autres. Et moi, cette pensée m'avait béni. Nous sommes faits à l'image de Christ. Pensez-vous que le Seigneur va nous torturer? Pensez-vous que le plan divin qu'il a pour nous depuis toujours, pensez-vous que c'est un petit plan qui ne va nulle part? C'est un plan qui va selon ce que le Seigneur veut pour notre vie. Et le Seigneur ne nous enverra jamais trop au-delà de notre capacité. Je sais que quand on est dans l'épreuve, on pense, mais Seigneur, c'est trop. Mais le Seigneur sait, ayez confiance, enfant de Dieu. Le Seigneur sait exactement ce qu'il fait dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Eh bien, on baisse les bas, on ôte les mains. Enfin, on va, on se prosterne devant le Seigneur et on dit, me voici. Et quand la personne fait cela, il devient un géant, peut-être pas devant les yeux, mais il devient un homme et une femme de Dieu. Et le Seigneur peut faire ce qu'il veut avec cette personne-là. Amen. C'est un bon message, Pasteur Greg. C'est très bon. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre, vous allez regarder ces passages-là, c'est succulent. C'est rempli de viande, de vitamines. 1 Pierre 4, si je peux le trouver, 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez jamais vu. Monsieur, des années, ça m'avait frappé, là. Ce n'est pas pour des petits faibles. Ce n'est pas pour des gens indécis. Ce n'est pas pour des gens, ben, je ne sais pas si ça va bien, je vais suivre le Seigneur. Si j'ai des petits contretemps, si j'ai des petites difficultés, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si je me présente à l'Église. Je ne sais pas. Non, il dit, comme Christ a souffert dans la chair, et entre guillemets, il a souffert pour vous et moi. Il a tout donné pour vous et moi, pour qu'on soit dans le chemin, pour qu'on soit victorieux, qu'on ait la vie abondante, qu'on soit des gens décidés qui vivent pour le Seigneur. Christ, de façon qu'il a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Wow! Wow, on a du travail à faire, hein, chacun de nous. Et je ne dis pas ça dans le contexte, je regarde moi-même, des gens décidés, déterminés. Moi, j'ai décidé, dit le vieux chant, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. La croix devant moi et le monde où? En arrière. Et ferme la porte. Il n'y a rien dans ce monde. On n'est là pas pour glorifier le monde. On n'est pas là pour être inspiré du monde. On est là pour être inspiré par la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Et on est là pour offrir sans cesse notre vie à Jésus-Christ. Et s'il faut souffrir, et il faut souffrir d'une manière ou d'une autre, mais dans cette souffrance, le Seigneur marche avec nous et il nous forme à l'image de Jésus-Christ. Si vous pensez pouvoir vivre la vie chrétienne sans être brûlé, touché un petit peu, vous vous trompez. Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, prenez votre croix. N'est-ce pas? Et suivez-moi. Je sais que vous le savez, mais je pense que des fois, il faut souligner qu'on n'est pas ici pour le party. On n'est pas ici là juste pour une grosse vie. Le monde pense qu'on est ici, on a juste une vie, puis il faut le vivre comme il faut. Non, non, on a juste une vie, il faut le donner comme il faut. Il faut donner en vie pour le Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix. Donc maintenant, nous servons le Seigneur. Oh oui, mais pasteur, j'ai des obstacles. Qui n'a pas des obstacles? C'est dans les obstacles, n'est-ce pas, qu'on fait un chemin. C'est dans les obstacles qu'on dit, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est dans ce moment qu'on grandit. Et que les autres voient que je marche avec le Seigneur. Il faut que les autres voient, on ne fait pas de spectacle, mais que les autres voient qu'il y a quelque chose de différent dans sa vie. Pourquoi? Parce que je suis une disciple de Jésus-Christ. Et c'est parce que je l'aime. 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 12. Bien-aimés, est-ce que vous savez que vous êtes bien-aimés? Nous sommes bien-aimés. Ne soyez pas surpris comme d'une chose qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pourquoi est-ce qu'il dit « ne soyez pas surpris » ? Parce qu'on est tout le temps surpris. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et il dit « ne soyez pas surpris ». Fait que ne soyez pas surpris. C'est profond, hein? Wow! Ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive. La fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Seigneur, tu veux nous éprouver? Oui, il veut nous éprouver. Oui, il veut nous tester. Il a testé Abraham et il veut-tu donner ton fils? Dieu, ça fait des années que j'attends ça. Oui, mais es-tu prêt à lui donner? Es-tu prêt à me garder toujours en avant? Oh, est-ce qu'il touche les choses dans notre vie? Est-ce qu'il touche? Est-ce que le Seigneur veut savoir? Est-ce que je suis toujours le Seigneur? Est-ce que je suis toujours le premier? En parlant de la fournaise, vous vous souvenez, les Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel, ils étaient éprouvés un petit peu. J'étais dans une fournaise, c'est pas gentil ça. Et puis voilà, à cause de leur foi, à cause des convictions qu'ils avaient à partir de la part de Dieu, un monde païen, un monde complètement à côté de Dieu, comme nous autres, en passant. Mais ils se sont déterminés dans leur cœur qu'ils ne se laisseraient pas souiller par quoi que ce soit, qu'ils vont rester fermes à ce Dieu Jéhovah. Et vous savez, les a amenés quelque part, une espèce de confrontation. Il dit, si vous ne fléchissez pas le genou, puis laissez-moi vous dire, ce monde veut que vous fléchissiez le genou. On ne fléchit pas. On raidit. Et on devient solide dans le Seigneur. De toute façon, ils l'ont jeté dans la fournaise. Et il y avait seulement une seule chose qui a brûlé dans cette fournaise. C'était quoi? Les liens. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Dans la fournaise, dans l'épreuve, dans le temps de difficulté, la seule chose qui les liait a été brûlée. Et les autres, la Bible dit, ils ne se sentaient même pas la fumée, la boucane. Ils ne sentaient rien. Et puis le roi, il dit, n'avons-nous pas mis 3 hommes là-dedans? Viens compter, là, parce que mes lunettes, là, je ne sais pas, là, j'en vois 4. Et le 4e, il dit, il a un visage comme d'un fils de l'homme. C'était le fils de l'homme. C'était Dieu avec eux dans la fournaise. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Oh oui, mais ce sont des histoires. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, moi. Ça m'édifie. Et ça me dit, l'Esprit Saint, il dit, vois-tu ce grec? C'est toi. Es-tu comme eux? Est-ce que tu veux être comme eux? Ou bien est-ce que tu veux fléchir les genoux? Hein? N'est-ce pas quand la musique a joué, des milliers de personnes ont fléchi les genoux. Et il y avait juste 3 gars. C'est voyant, ça. Hein? Ils sont tous à genoux et il y a 3 gars qui restent debout. Et il dit, les jeunes disaient, ben écoute, au roi, vive à jamais. Ils étaient polis quand même. Il dit, notre Dieu peut nous délivrer et il va nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, oh wow, ça c'est la foi. Mais s'il ne le fait pas, sache, on ne sert pas tes dieux, on ne se met pas à genoux. J'aime cette foi. Il va me délivrer, mais s'il ne le fait pas, ça ne change rien. On ne change pas d'idée. On va servir notre Dieu. Hallelujah. Verset 13 dit ceci. Bon, après que, pour vous éprouver. Enfant de Dieu, même ce que je dis ici, j'espère que vous n'avez aucune crainte, aucune... Oh, mais qu'est-ce qu'il va... Non, 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 écoute. Dieu nous aime, Dieu nous connaît, Dieu a un plan pour chacun de notre vie. N'ayez pas peur. Verset 12 dit ceci, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Quelle optique! C'est la vision de l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui prend cette vérité et il l'incorpore dans sa vie. Oui, réjouissez-vous. Paul dit, d'ailleurs, je vous dis là, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Dans la souffrance, on réjouit le Seigneur. On n'est pas comme le monde. Avec l'aide de Dieu, on se réjouit parce qu'on on fait part des souffrances de Christ. Et il dit, il fait allusion là, lorsque sa gloire apparaîtra, wow! Pouvez-vous imaginer, enfant de Dieu, ce n'est pas le commencement de la vie qui compte. C'est bien important quand même. Ce qui est important, c'est de la façon qu'on termine. Et la vie chrétienne, ça se termine un jour. Et ça se termine quand on voit l'objet de notre foi, Jésus-Christ. Et la Bible, nous le verrons tel qu'il est, et que nous serons changés. Nous serons automatiquement changés. Vous dites, oh, ben, je ne sais pas si... Ben, croyez-le, c'est vrai. Le Seigneur revient pour ses enfants, pour l'épouse de Christ. Et la Bible dit, en le voyant, nous allons être changés. Nous allons avoir un corps glorifié, semblable à son corps. Et nous allons vivre éternellement avec lui. C'est l'espérance qu'on a. Fait que si c'est vrai, nous devons mettre tout à côté. Nous devons mettre toutes choses qui brillent ici-bas. Les petites jouets, les choses qui, n'est-ce pas, scintillent, qui flashent. Nous devons mettre tout ça à côté et nous devons courir la course qui est devant nous. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, dites-vous amen. Amen. Fais-moi pas sauter en bas, là. Hallelujah. On devient excité pour le football, on devient excité pour les sports, on devient excité pour l'argent, on devient excité pour toutes sortes de choses. Nous devons être remplis avec les choses, nos trésors, on doit les mettre dans les cieux avec le Seigneur. Je sais que vous savez ces choses-là, mais ça fait du bien de le dire. Nous devons nous rappeler aux choses de base, les choses de notre foi, les choses réelles, les choses qui ne changent jamais. Le monde change. Et la Bible dit, la convoitise du monde finit, ça change. Ça serait fini un jour. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera, quoi? Éternellement. C'est pour ça qu'on s'en tient à des choses de Dieu. De tout notre cœur. Le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a choisis pour cela. Et nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne médiocre. Nous ne voulons pas vivre une chrétienne, oh ben, ça donne, si je suis béni, si ça va bien de mon côté, puis bon, je vais essayer de m'arranger, là, d'arriver à l'église à un moment donné. Je reviens à mon langage de Québec, là, il va falloir que j'arrête cela. Non, enfin, je vous blague, là, mais... On vit dans un temps où, même les chrétiens, où le Seigneur, c'est pas le premier. Dans beaucoup d'églises, évidemment pas ici, ben voyons donc, pas ici, là. Mais il y a des églises, il y a des églises même évangéliques qui se disent de la Bible, qui ne croient en rien, qui n'attendent à rien, qui ne visent rien, qui ne vivent rien. C'est un club social. Puis avant, on disait, ben les églises, c'est des clubs sociaux. Ben écoutez, là, on se range, nous, je dis nous, le monde évangélique, les gens qui croient dans le Seigneur, croient dans la nouvelle naissance, qui croient dans les Écritures, il y a une attitude, mais oh ben tu sais, on est influencé, on est affecté par le monde. Et le Seigneur dit, nous ne sommes pas de ce monde. Sommes-nous conscients de cela? Je pense que nous le sommes. Mais le Seigneur veut qu'on ait cette attitude, non pas qu'on est impoli, n'est-ce pas qu'on est bizarre, quoi que ce soit, mais on n'est vraiment pas de ce monde. Nous sommes rendus au verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, pas malheureux. Vous êtes heureux. Si vous êtes outragés, et de plus en plus, nous qui portons le nom de Jésus-Christ, on est mis à côté, on est outragé, on est méprisé. Vous dites, pasteur, de quelle sorte de monde vous vivez? Non, non, ça arrive dans notre monde présentement. Et si vous n'êtes pas conscient, ben je ne sais pas ce qu'on va faire avec vous. On va s'asseoir, on va jaser ensemble. Si vous êtes outragé pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est ce que je veux. Nous voulons l'Esprit de gloire. Nous voulons la gloire, non pas de ce monde, nous voulons la gloire de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre la gloire. Nous voulons poursuivre la présence de Jésus-Christ. Nous voulons être sérieux. On n'est pas chrétien à moitié. Nous sommes là-dedans. Lui, il a tout donné. Il s'est livré pour nous, sa vie comme un sacrifice. Et nous voulons nous donner complètement à Jésus-Christ. Dites-vous amen. Amen. Vous l'avez déjà fait, mais nous le faisons présentement. Dans le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me repens s'il y a quelque chose, Seigneur, ou ça dans ma vie, ou cela. Seigneur, on garde les choses propres, les choses, on ne les laisse pas dans un coin. Non, Seigneur, pardonne-moi, veux-tu me pardonner pour ça? Seigneur, ton sang me lave de tout péché. Et Seigneur, je veux que ça soit propre devant toi. Et on garde cette attitude devant le Seigneur. Et le Seigneur voit le cœur. Il nous connaît, il sait qu'on est faible, il sait qu'on a besoin de lui. Mais moi, je veux lui dire, je ne veux pas être indépendant. Je ne veux pas penser que, bon, j'ai quelques devis chrétiens, je connais des petites choses, ça fait que, non, non, je vis ça de moi-même. Non, j'ai besoin de lui plus que jamais. J'ai besoin du Seigneur aujourd'hui. Et je m'accroche à lui. Et nous, nous accrochons tous au Seigneur. Nous sommes toujours dans le chapitre 4. OK, maintenant, on revient à 1 Pierre. Ah, ça achève, là. Ne vous énervez pas, là. Ça achève. Je suis parti, là, mais je suis attaché quand même. 1 Pierre, premier chapitre, et le verset... Je pense que c'est le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi... Êtes-vous content d'être gardé? Vous êtes bien gardé par la foi, hein, par Jésus. Pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans ma Bible, j'ai un point d'exclamation. Amen. Et c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Est-ce que y a-t-il quelqu'un, y a-t-il quelqu'un que ça arrive à quelqu'un ici, là, un peu? Des épreuves, des fois? Hein? Des grosses épreuves, des fois? Enfin. Mais il dit, regardez ce que Dieu nous dit. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand Jésus-Christ apparaîtra, c'est fini. Et les choses, c'est fini. Toutes les choses, les petits tracas, on était pris pour ça, on avait tellement d'intérêt là-dedans, on s'est donné à cela. Hein? Non, non, non. Ce qui est important, c'est que le Seigneur revient. Mais il dit ici, j'aime beaucoup ça, il dit, afin que votre foi soit éprouvée plus précieuse que l'or. La fournaise, dans la vie, des fois, ça chauffe. Et vous savez très bien qu'on cherche de l'or, on chauffe, et on sait ce qui vient en haut, là, sur la surface, c'est le pas bon. Plus qu'on chauffe, plus que ça se purifie. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Le Seigneur nous travaille, il dit, « Seigneur, ça chauffe assez! Wow! Seigneur, ça chauffe! » Mais le Seigneur, ce qu'il veut, là, c'est qu'il ne veut pas du tin. Il ne veut pas du aluminium. Il veut de l'or. Quand vous allez aux Olympiques, là, vous visez l'or. Et quand vous êtes sur le stade en avant, c'est l'or, on met ça dans la bouche. Hein? C'est, hein? L'or. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est en train de faire. J'ai devant moi les contestants, les gens qui courent, les gens qui avancent, et le Seigneur fait de vous, les gens, style qualité d'or. Et puis, des fois, on n'a pas le sentiment qu'on va gagner l'or. On l'a déjà gagné. C'est Jésus-Christ. On ne peut pas ajouter à ce que vous êtes. Mais ici-bas, dans la vie de tous les jours, il nous perfectionne. Et on est déjà parfait. On n'est pas accepté parce que, n'est-ce pas, on est un chrétien, un super chrétien. On est tous super chrétiens. Mais on est tous en chemin. Comme le petit gars avec la chandail, il dit, ne me jugez pas, c'est je suis en construction. Chacun de nous, nous sommes en construction. Mais ce matin, nous voulons laisser le Seigneur, l'Esprit Saint, ses paroles, nous encourager, peu importe ce que nous vivons, nous avons foi dans le Seigneur. Et je pense qu'à l'apôtre Paul, quand il était Actes 16, il était en prison. Hein? Il avait battu de verges, il avait ôté ses vêtements, il était en prison, Actes 5 plutôt, avec Silas. Et la Bible dit que vers l'heure de minuit, Paul s'est mis à murmurer. Est-ce que ça se dit ça? Non. Il s'est mis à chanter et à prier. À minuit, là, ça sonne fort. Hein? Fait qu'il bénissait le Seigneur. Il était en prison. Il aurait pu dire, « Ben, écoute, Seigneur, là, prédicateur de l'Évangile, puis j'ai tout donné, et regarde, en prison. » Non. On peut choisir notre attitude. Quelle attitude est-ce qu'on a? On peut chialer, on peut critiquer, on peut blâmer, on peut se blâmer, et puis là, tu sais, pour Dieu, on va bouder Dieu un petit peu. Hein? On peut choisir notre attitude, ou on peut dire, comme Paul, on s'est mis à chanter. Peut-être il a chanté, « Moi, j'ai choisi Jésus, en avant. Hein? » Je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'en même temps, il s'est fait un tremblement de terre. Quand on prie, là, dans le domaine de l'esprit, il se passe des choses. Quand on donne gloire à Dieu, même quand ça ne va pas, surtout quand ça ne va pas, et on glorifie Dieu, il y a eu un tremblement de terre, et les liens qui les tenaient au cep, au plancher, la Bible dit, ils étaient tous brisés. Ça nous dit quelque chose? C'est quand on loue le Seigneur, ça a brisé les liens en plein milieu de ça, et puis ils ont sorti. C'était la gloire de Dieu, c'était la manifestation de Dieu. Je vous raconte une petite histoire. Quand on a déménagé à Repentigny pour commencer une œuvre, ça allait très bien. Dans l'espace de 2 ans, On était 200 nouveaux chrétiens. C'était un réveil. Qui veut un réveil? Il n'y a rien comme un réveil. Il n'y a rien comme le souffle de Dieu. Wow! Seigneur, donne-nous encore, Seigneur, un réveil. Ici à Shediac, ici dans l'Acadie, au Québec, Seigneur, souffle que ton Esprit Saint. Mais de toute façon, on avait eu un réveil. On a commencé dans un centre d'achat. Et puis, Seigneur bénissait, et on a trouvé une église, un restaurant qui a fait faillite, qui ressemblait vraiment à une église. De toute façon, on était dans la joie, tout allait bien, et puis, à un moment donné, ça se remplissait, et puis, il y avait des nouvelles familles qui s'est joint à l'église. Il y avait une famille, un monsieur, un petit couple, ils avaient au moins... Moi, je dirais 6-7 enfants, de beaux enfants, dans l'adolescence jusqu'à 8 ans, 9 ans. Toute une joie de les voir. Et là, on a commencé à faire des travaux dans l'église. J'ai demandé les gens, les bénévoles, parce qu'on a acheté l'édifice, puis on voulait faire des changements. Il fallait faire des changements. Et puis, ce monsieur-là, il travaillait. Je ne le connaissais pas plus que cela. Il y avait un autre monsieur, peut-être plus âgé, qui avait plus d'expérience dans la construction. Et à un moment donné, je pense qu'il y a eu un malentendu. Et le petit bonhomme, parce qu'il était gros comme ça, il s'est fâché, il a pris ses outils et il a claqué la porte. Mais après cela, on a eu 2 vols par infraction dans l'église qui a volé nos guitares 2 fois. Devine qui c'était. Et puis, on avait aussi, un jour, un mercredi, la prière, on avait 2 grosses portes en avant, et il avait rempli ça avec du crazy glue. Et puis, un autre soir, j'ai sorti de la prière, et je n'avais plus de vitre en arrière dans mon auto, là, complètement enlevé, là, des brisés, enfin. Et puis, plus de cela, il a commencé à me menaçant... téléphoné tard le soir, il a même téléphoné au bureau chef, enfin, les pasteurs à Montréal. Il a fait tout ce qu'il peut et il nous a même amenés en cour. Il a dit au juge que j'avais fait un contrat de lui payer tant de l'heure. Et puis j'ai dit non, tout ça. Puis il criait menteur, menteur. Puis le gars à côté du juge, il dit fermez-la. Enfin, de toute façon, dans 2 semaines, le sentence a été rendue, ils ont vu quelle sorte de monde c'était. Mais j'ai dit tout cela pour souligner, c'est que, oui, il peut arriver des choses. Est-ce que ça nous décourage? Est-ce qu'on finit? Est-ce que le Seigneur est bon? Non, il est toujours bon. Les circonstances, les personnes n'est pas toujours idéal. Et je me souviens, le monsieur en question, là, qui nous a causé beaucoup de problèmes. Il a même appelé à la ville parce qu'on faisait des travaux, puis peut-être on aurait dû avoir un permis. Peut-être ça nous aurait aidé un peu. On ne l'avait pas. Ça, c'est une autre histoire. Enfin. En tout cas, un jour, on était là, on travaillait, et puis un monsieur de la ville est venu avec un chapeau blanc. L'inspecteur. Il a regardé en haut, a regardé au sous-sol, c'était tout fini. Et là, évidemment, là, on marche sur les œufs, hein, il aurait pu fermer ça, il aurait pu nous causer des problèmes insurmontables, le gars de la ville. Puis il se promène, et puis à un moment donné, il me regarde, il dit non, il dit, je vois rien ici, tout est beau. Et savez-vous ce qui s'est passé en ce moment-là? Il y a eu une fontaine de joie qui a surgi. Je n'ai pas sauté comme je l'ai fait ici, là. J'étais calme. Mais la joie de l'Esprit, savais-tu pourquoi? Parce que je savais que le Seigneur était avec nous. Je le savais. Et par l'Esprit Saint, ça a produit une joie énorme en moi. Le même Esprit Saint, la même voix, la même assurance, est pour nous. Peu importe ce que vous vivez, réclamez-le. Cherchez le Seigneur. Vous allez voir que peu importe ce que vous vivez, David dit, si je fais, si je prends les ailes de l'aurore et je vais au bout du monde et que je fais mon lit dans l'enfer, le séjour du mort, qu'est-ce qu'il dit? T'y voilà! Tu es là! Et quand quelqu'un vit ça, expérimente cela, sa vie est changée. Et ça se voit dans sa vie. Si tu veux être un chrétien en cocon, est-ce qu'on dit cela? Si tu veux être protégé par ma vie, puis dérange-moi pas, ben ça va, le Seigneur vous aime pareil. Puis moi aussi, je vous aime pareil. Mais quand on pense à travers les choses, comme le psalmiste, David, choisi roi, trois fois pour être roi, puis on l'a chassé comme un chien. Il a passé des années à essayer d'esquiver, de s'échapper de Saül. Il vivait des choses incroyables. Mais laissez-moi vous dire une chose. Un jour, il a monté sur le trône. Et va en Israël présentement, on parle de roi David. David, et on lit les psaumes, et des fois on pleure, on lit les psaumes, et la vérité pénètre en nous, et le Seigneur nous touche profondément, un homme qui était tellement humain, tellement il vit des choses. Mais merci Seigneur, il a passé par les choses pour nous, et nous pouvons passer par les choses pour d'autres, et pour nous, mais pour d'autres aussi, et que Dieu soit glorifié. Amen. J'ai un autre passage, puis je vous promets, là, je m'en vais. Ferme les portes, vite, s'il vous plaît. Romains 15, je termine avec cela. Oh, sa parole est bonne, sa parole ne change jamais. Romains 15 et verset 13. Vous connaissez ce passage-là, mais je reviens sur... Ça, c'est un de mes passages, je reviens souvent à ce verset. Romains 15 et 13... Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Point d'exclamation. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit... Oh oui, mais si ça va bien, je vais avoir de la joie. Non, non, non. Le Seigneur veut remplir de... C'est la joie qui vient de lui. Comme la paix ne vient pas de ce monde, la paix vient de lui, la joie vient de lui. Et j'aime beaucoup ça ici, le titre, c'est le Dieu de l'espérance. Il y aura, il y a, et il y aura toujours de l'espérance parce que Dieu est le Dieu d'espérance. Le Seigneur est ressuscité, il ne meurt plus. Il est vivant, il est à la droite du Père. Et peu importe, vous dites, et puis nous ici, là, quand on vit, il n'y a plus d'espoir, on est déprimé. Quand il n'y a plus d'espérance, là, on est vraiment fini. Non, on n'est jamais fini parce que Dieu vit, parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Et peu importe ce que vous vivez, le Seigneur, il est là. Et il peut d'une seule parole, et il va nous lever en temps et lieu. Il va faire un travail en nous, et puis quand il nous lève, là, on est prêt à crier, le Seigneur est le Dieu de toute espérance, et le Seigneur est vivant. Et quand vous donnez votre témoignage à d'autres, ils vont être touchés. Votre vie va être témoignage à Jésus-Christ. Je vous invite de vous lever, s'il vous plaît.